L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Green Africa. Alors dans ce nouveau numéro, nous allons revenir sur le bilan de la COP27. Ce sera avec Raja Shafil, qui est la directrice générale du Centre de compétences pour le changement climatique 4C Maroc. Raja Shafil, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Diouf et merci pour votre aimable invitation.
Alors, la COP27 s'est clôturée en Égypte avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Vous étiez présente à Sharm el-Cheikh. Avant de revenir sur le bilan, quel est votre ressenti?
Oui, on le sait tous aujourd'hui, les résultats de la COP27 reflète l'époque paradoxale très turbulente dans laquelle nous vivons aujourd'hui et ce qui est normal après une crise sanitaire mondialisée de plus de 2 ans et une crise énergétique et bientôt alimentaire à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait, à Sharm el-Cheikh, alors que nous nous engageons aujourd'hui au niveau mondial dans une transition qui exige un changement profond de toutes les structures qui soutiennent l'économie et les sociétés, donc des progrès qui étaient impensables il y a seulement 2 ans sont devenus soudainement possibles, on va en parler tout à l'heure, et ce dans un contexte de tension géopolitique historique. Mais dans le même temps, malheureusement, une profonde division lors de la COP27 a montré à quel point nous sommes encore très loin des objectifs mondiaux de construction d'un avenir sûr pour les générations futures qui limitent bien entendu le réchauffement de la planète à pas plus de 1,5 degré Celsius.
Donc vous n'êtes pas totalement satisfaite de ce bilan?
Non, en fait, c'est un bilan très mitigé parce que l'ensemble des résultats de la COP27, donc obtenus à l'aube en fait, du 20 novembre, constitue bien sûr certaines percées historiques et réaffirme un signal de confiance, mais ce signal de confiance est très faible. Il reste très faible, comme perçu par les pays en développement, notamment les pays africains. Alors un signal très faible quant à l'engagement politique pour accélérer l'action climatique et donc dans un contexte, comme j'ai dit, géopolitique tumultueux, si on peut dire, et avec plusieurs crises imbriquées. En fait, le signal de progrès le plus marquant, peut-être à la COP27, est bien sûr, comme tout le monde le sait, la décision d'établir un nouveau fonds pour les pertes et dommages.
Justement, la bonne nouvelle, c'est, vous l'avez dit, c'est l'annonce de la création d'un fonds pour les pertes et dommages. En quoi consiste-t-il et qui va le payer?
Oui, alors en fait, cette décision sur les pertes et dommages a été le véritable point d'inflexion des résultats de la COP27 avec des changements politiques radicaux par rapport à la COP26 de Glasgow. Et ce, bien sûr, à la suite d'efforts soutenus diplomatiques de la part des petits États insulaires qui sont extrêmement vulnérables vis-à-vis des effets des changements climatiques, mais également le groupe des 77 et de la Chine, donc des efforts de ces pays qui ont duré plus de 30 ans pour enfin obtenir une reconnaissance de ces pertes et dommages et qu'il y ait la création d'un véritable fonds. Alors maintenant, les discussions resteront sur comment justement concrétiser donc réellement ce fonds, ce nouveau fonds sur les pertes et dommages. Alors il y aura certainement des discussions sur l'élargissement de la base des donateurs, donc qui va donner et comment, la définition des pays vulnérables également sera au centre certainement des débats lorsque les dispositions pratiques de ce fonds commenceront à être discutées en préparation de la COP28 qui, comme on le sait, se tiendra aux Émirats arabes unis. Alors cette décision même adoptée reprend le langage convenu à Paris, donc dans le cadre de l'accord de Paris, qui faisait référence bien sûr aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques. Mais la grande question aujourd'hui, c'est quoi en fait pays particulièrement vulnérables? En fait, ça reste très abstrait, c'est-à-dire en se basant sur quels critères et sur quelle base nous allons au niveau international décider, parce qu'il s'agira de décider qui est extrêmement vulnérable et qui ne l'est pas. Donc ça, certainement, à mon sens, avec ma petite expérience, ça va prendre, à mon avis, un certain nombre d'années déjà, puisque cette notion de pays extrêmement vulnérable ou particulièrement vulnérable vis-à-vis des effets adverses des changements climatiques est assez abstraite et nécessitera beaucoup de négociations au niveau international pour qu'elle soit précisée.
Des négociations qui s'annoncent longues. En tout cas, cet accord ne contient pas non plus d'avancées majeures sur les énergies fossiles. Comment peut-on l'expliquer, Raja Shafil?
Oui, en effet, en fait, le résultat global de la COP27 est insuffisamment ambitieux par rapport, bien sûr, à l'ampleur de l'urgence climatique. Et reflète en fait des clivages politiques beaucoup plus profonds donc entre les pays partis à la Convention et à l'accord de Paris. Alors donc ce sont des questions, ces questions notamment sur les combustibles fossiles ont retardé bien sûr le consensus. Comme vous le savez, on a prolongé de presque 2 jours la durée de la COP. Donc ces questions ont retardé le consensus et donc ont finalement empêché en fait réellement l'obtention de résultats plus ambitieux, en particulier concernant la limitation des subventions aux combustibles fossiles et surtout la limitation du réchauffement de la planète à pas plus de 1,5 degré Celsius, ce qui bien sûr signifie l'abandon progressif des combustibles fossiles. Il y avait des questions également relatives à l'identité des payeurs. En lien avec ça, vous savez, donc, les payeurs pour la... Parce que dans les négociations internationales, vous le savez, c'est un équilibre, en fait, puisque la décision sur les pertes et dommages est passée. Donc, il y avait des questions qui va payer, etc. Donc, c'est pour qu'il y ait un équilibre, en fait, entre les différentes parties donc prenantes à ces négociations. Maintenant, l'urgence d'agir donc pour ne pas dépasser le 1,5 degré et le rôle des combustibles fossiles dans la transition climatique, comme on le sait, ils étaient prédominants, surtout dans les dernières heures de la COP27, parce qu'il était question de se mettre d'accord sur le chapeau qui va présenter les décisions de la COP27. Et très souvent, dans ce chapeau des décisions d'une COP, c'est là où on annonce en fait les grandes lignes de ce que la COP a décidé. Donc, ces références aux combustibles fossiles ont retardé beaucoup donc l'approbation de ce chapeau et donc les travaux même de la COP27. Alors, le texte de couverture donc de ce chapeau, ce fameux chapeau donc qui est une sorte de préambule politique aux décisions de la COP27, donc ce texte n'appelle pas à l'élimination progressive des combustibles fossiles. Il n'appelle pas, il n'a pas fait mention de ça à cause de la pression donc des pays, bien sûr, pétroliers et autres, ouais. malgré la pression exercée par de nombreuses parties, notamment les petits États insulaires et même l'Union européenne et les États-Unis.
Raja Chafi, dans ce contexte se pose aujourd'hui la question des choix énergétiques des pays africains, question cruciale liée au changement climatique. Comment un pays comme le Maroc peut-il servir d'exemple aujourd'hui?
Ben, il est certain que au Maroc, notre pays donc est cité comme modèle en termes de développement des énergies renouvelables. Donc, pas plus tard qu'il y a deux jours, il y avait une importante réunion
de travail.
Voilà, une réunion de travail présidée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avec les principaux responsables au niveau national pour s'enquérir de l'état d'avancement des grands projets d'énergie renouvelable. C'est dire que c'est une priorité pour un pays comme le Maroc, et c'est tout à fait normal. Nous sommes importateurs à plus de 95% ou 98% de nos besoins en énergie fossile, et c'est beaucoup plus qu'un choix écologique, c'est un choix stratégique et politique également. Parce que si nous développons les énergies renouvelables, nous allons non seulement contribuer à l'effort mondial de limitation des émissions des gaz à effet de serre, mais nous allons surtout alléger donc le poids que l'importation des énergies fossiles pèse donc sur le budget national, bien sûr. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays africains, il y a également des projets d'énergie renouvelable qui sont en cours de développement, mais un récent rapport qui vient de paraître cette semaine estime que la majeure partie, par exemple, qu'il y a des émissions, bien sûr, dues aux combustibles fossiles en Afrique, mais qu'une très grande partie de ces émissions sont dues à des énergies fossiles qui sont exportées vers les pays du Nord. Donc c'est sûr qu'avec la pauvreté énergétique qu'il y a en Afrique, on est obligé aujourd'hui, surtout des pays qui disposent de ressources en énergie fossile, on va continuer bien sûr dans ces pays à utiliser et les énergies fossiles, mais il faut également en même temps donc développer les énergies renouvelables.
Raja Chafi, pouvez-vous revenir sur la participation de 4C Maroc à la COP27? Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre de compétences changement climatique.
Oui, merci. En fait, nous avons été très actifs donc à la COP27, donc avec environ 12 activités donc très marquantes qui ont été organisées en marge des travaux de la COP27. Et c'est vraiment un nombre record d'activités. Maintenant, peut-être l'activité la plus marquante, il y en avait deux de très haut niveau. Donc une première activité qui a rassemblé les trois commissions climat créées en marge de la COP22 à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et donc ces trois commissions en présence des chefs d'État concernés et sous la présidence de son Excellence Monsieur Macky Sall, le président du Sénégal qui préside maintenant l'Union africaine, ben ces trois commissions climat, à savoir la commission climat du bassin du Congo, sous la présidence de Monsieur le président du Congo, la commission climat du Sahel sous la présidence de son Excellence le président du Niger, et la commission climat des petits États insulaires sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président des Seychelles. Donc elles se sont réunies en marge avec l'Union africaine en marge de la COP27 pour justement définir donc une vision commune pour consolider leur coopération et leur travail en commun avec le Maroc en tant que pays partenaire fondateur de ces trois commissions. Alors, l'autre activité dont on est très fier, c'est le side event de haut niveau sur la finance climat au sein des pays de la commission climat du bassin du Congo. Et donc, ce side event de très haut niveau a été présidé par Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, qui préside la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et lors de cet atelier de très haut niveau, on est revenu donc sur les résultats donc très probants qui ont été enregistrés dans le cadre de l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo, à travers notamment la création d'un fonds bleu, le fonds bleu du bassin du Congo, et donc une mention particulière a été faite par rapport aux efforts du Royaume du Maroc en appui à ces commissions, notamment à travers notre centre, le centre 4C Maroc. Alors, une autre activité très intéressante aussi pour l'ensemble des pays africains, c'est que nous, en tant que centre 4C Maroc, nous avons appelé à créer un réseau africain de centres d'expertise en changement climatique. Et nous avons maintenant notre réseau africain comporte 8 centres comme nous sur toute l'Afrique, ce qui va nous permettre de conjuguer nos efforts pour l'appui aux politiques climat en Afrique.
Et justement, Raja Chafil, au sein de 4C Maroc, comment accompagnez-vous les jeunes du continent à mieux s'engager pour le climat?
Oui, donc avec les jeunes du continent, donc nous avons lancé depuis maintenant 3 ans une formation de très haut niveau spécialisante dans le domaine du changement climatique. Cette formation, qui est sous forme d'une masterclass du 4C Maroc, comporte une formation de haut niveau de 6 mois, accompagnée par la suite par une spécialisation de 4 mois. Alors, nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir formé plus de 1200 jeunes africaines et africains de plus de 30 pays africains et à majorité des filles, puisque 54% de nos lauréats de la formation en changement climatique sont des filles. C'était voulu parce qu'il y a très peu de femmes, y compris en Afrique, expertes en changement climatique, et l'idée était de mettre sur le marché du travail africain plus de jeunes experts, une pépinière de jeunes experts capables d'aider leur pays dans leur politique climat.
En tout cas, Raja Chafil, merci pour tout ce que vous faites, voilà, pour le Maroc, mais aussi pour le continent. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de 4C Maroc, le centre de compétences au changement climatique. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions dans Green Africa.
Merci à vous, Monsieur Diouf.
Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, c'est aussi une urgence sociale.